Les rendez-vous du petit pigeon voyageur sur RCN, Jean-Marc Armand.
Bonjour Anaïs.
Bonjour.
Anaïs, c'est une jeune femme qui a commencé il y a bientôt 6 mois une mission de service civique à la radio RCN 90.7.
Exactement.
Alors, qu'est-ce qui vous a amené à postuler pour une mission, on l'appelle même une mission volontaire?
Bien sûr.
Dans une association comme RCN?
Eh bien, j'ai toujours été passionnée par le journalisme, par les médias en grande partie. Ça fait un moment que je suis dans les études et ayant redoublé, il me fallait quelque chose. Je voulais être certainement bénévole ou faire des stages dans des médias comme RCN, peut-être dans la presse, mais en tout cas dans ce milieu-là. Et il s'est trouvé qu'en août, ma mère a trouvé ce service civique sur Internet. J'ai pu y postuler et ça m'a permis d'arriver ici en tant que service civique.
Alors comment ça s'est passé, l'arrivée, tiens, justement?
L'arrivée, alors première fois que je suis venue ici, un petit peu compliqué de trouver le bâtiment. mais ça a été surtout, j'ai été accueillie par Thomas, du coup le directeur de RCN, pour un entretien la toute première fois, où il y avait aussi deux anciennes alternantes de RCN, qui étaient là pour aussi voir comment faire, et puis recevoir les gens et donner leur impression. On a eu un entretien très sympa, très chaleureux, où on a pu pas mal converser, où à la fin, il était déjà assez, comment dire, entreprenant sur le fait de me prendre, avant même de consulter l'autre personne qui est là, Mona, qui s'occupe aussi du recrutement. Donc j'ai pu l'avoir au téléphone dans l'après-midi, où il m'a confirmé qu'effectivement, c'était bon. Et puis après, je suis arrivée pour une première matinale de TATG, donc Tom and the Gang, où j'étais en spectatrice pour voir un petit peu comment ça se passait début septembre. Et puis après, les rouages se sont mis en place. J'y participe maintenant et je fais aussi mon émission.
Sur le plan personnel, qu'est-ce que ça apporte, dans le domaine, par exemple, de la confiance en soi?
Déjà, apprécier sa voix. Enfin, apprécier sa voix. Plus ou moins, je ne l'apprécie pas toujours encore. Même apprécier aussi devoir se voir, devoir s'entendre. Ça nous oblige à prendre confiance en soi et à nous habituer aussi, parce qu'on a toujours tendance à s'entendre comme on s'entend dans notre tête et à toujours un petit peu exécrer notre voix qu'on entend à la radio ou dans des vidéos, etc. J'ai appris du coup à l'accepter beaucoup plus. Et aussi dans la parole, dans la façon de s'exprimer. Je suis déjà pas quelqu'un de très timide et qui ait du mal à parler, mais ça apprend à savoir se positionner aussi à des moments, à des instants. Voilà.
C'est jamais facile d'être devant un micro. Je comparerais un peu ça avec le peintre qui a la toile blanche.
Mmh.
Qu'est-ce qu'il va y mettre?
C'est vrai.
L'animateur, comme je le pratique maintenant depuis le mois dernier au titre du petit pigeon voyageur, mais qu'il a pratiqué pendant 10 ans déjà avec RCN,
mmh.
Eh ben, il y a des moments où on se dit, mais attends, comment je vais faire? Qui est mon invité? Qu'est-ce que je vais lui demander? Qu'est-ce qu'il va me répondre? Et c'est pas toujours facile, ça demande une grande souplesse, je pense, intellectuelle.
Comment rebondir? Oui, c'est assez compliqué dans des interviews. C'est vrai que moi, dans mes émissions, c'est très préparé aussi à l'avance. Donc, même s'il y a moins de choses qu'on peut ressortir de l'invité, ce qui est quand même assez rare, les gens on leur demande ce qu'ils font et de quoi porte leur métier ou leur passion. Donc, c'est plutôt simple de les faire parler, je veux dire, avec des questions assez simples. Ils peuvent très vite étaler, puisque c'est des choses qui les passionnent. Ce n'est pas des questions pièges, donc c'est plutôt assez simple de les faire parler. Après, effectivement, quand il y a un petit trou, etc., il faut savoir les combler, il faut savoir réussir à animer. On apprend ça au fur et à mesure. Hein. C'est vrai que le premier mois, j'étais chevrotante sur ma chaise en tant qu'animatrice en me disant comment je vais faire. J'avais mon texte préparé sous les mains pour animer, etc. Ce qui n'était pas forcément la bonne technique. Mais j'ai su m'adapter. Maintenant, je sais à peu près ce que je dois dire et comment rebondir. Et j'ai aussi, effectivement, toujours un plan B, des choses de préparer au cas où, si ça se passe mal, puisque ça s'est déjà passé, ou on n'a plus rien à dire, on a une émission d'une heure et il faut savoir la combler.
C'est pas du tout ce qui nous est arrivé, vous et moi. On a fait connaissance il y a à peu près une demi-heure. Hein, on a sympathisé tout de suite, d'ailleurs, au demeurant. Et puis, on n'a pas préparé grand-chose, hormis que moi, je suis focalisé par la mission d'Anaïs, d'où elle vient, ce qu'elle fait donc ici, et puis qu'est-ce qu'elle veut faire plus tard, et qu'est-ce que lui aura apporté la mission de service civique.
C'est vrai. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire. De toute façon, moi, j'aime bien parler, donc c'est pas trop compliqué, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire, effectivement, sur ce que m'apporte ce service civique. Il y a beaucoup de valeurs humaines aussi. Hein. On rencontre beaucoup de gens. Là, on a de la chance aussi d'avoir beaucoup de personnes de mon âge, un petit peu plus jeunes ou un petit peu plus vieilles, mais dans l'ensemble, on a 4-5 ans, dans un volume de 15-5 ans ensemble, entre 18 et je pense 23-24 ans. Donc on est sur des âges où on peut se parler, où c'est peut-être un petit peu plus simple aussi. Et puis la chance d'avoir un patron quand même assez cool,
C'est pas un patron, Anaïs, c'est un tuteur.
C'est un tuteur, oui, bon, c'est un patron quand même.
Dans le service civique, il n'y a pas de travail, il n'y a pas de travaux, il n'y a pas de patron. C'est un peu différent de ce que vous verrez dans l'entreprise, quand vous irez dans une... Non pas que RCN ne soit pas une véritable entreprise, mais quand vous irez dans une entreprise, vous verrez, vous rencontrerez des patrons, des cadres, des collègues.
Bien sûr.
Et puis, je crois que vous êtes assez sensibilisé par tout ce qui est discrimination, harcèlement et tout ça.
Oui, aussi, c'est vrai que je reprends, alors j'en ai pas encore fait, mais je reprends cette émission d'un ami à moi maintenant aussi, qui participe au matinal, qui était au service civique l'année dernière, qui s'occupait de l'émission de l'autre côté, qui était justement sur le harcèlement envers les femmes, envers les personnes LGBT, le racisme, etc. Et du coup, je reprends un petit peu ça, parce que lui, il travaille, donc je contacte les gens, etc. Là, il faut qu'on s'y mette vraiment, mais on va sortir quelques émissions en plus de ce qu'il avait déjà fait, donc c'est pas mal.
Alors ça, ce sera après votre service civique?
Ça sera, je pense, avant la fin, et effectivement un petit peu après. Après, je compte continuer en tant que bénévole, au moins jusque juillet, je pense. Donc, effectivement, ça me laisse encore du temps pour profiler tout ça.
D'accord. Vous avez été cueillir les œufs de Pâques hier?
Même pas. Non, normalement, c'est la semaine prochaine, mais je serai malheureusement pas là. Donc, les œufs de Pâques, pardon, excusez-moi.
Les œufs de Pâques. Nous sommes lundi 10. Avril. Oui, et hier, vrai. C'était dimanche, le dimanche
oui,
où,
c'est
on,
vrai.
Où on envoie les gosses dans les jardins pour aller chercher des œufs.
C'est toujours moi qui les cueille en plus, et normalement.
Ben
donc, mais c'est vrai que je vais pas pouvoir être avec ma famille. Enfin, j'ai pas pu. Normalement, nous, on le fait toujours le lundi. J'ai pas pu être avec ma famille hier pour les cueillir. Mais normalement, on le fait la semaine prochaine. Donc, c'est toujours moi qui les cueille, les œufs de Pâques en plus. C'est plutôt cool.
D'accord.
Mais ça va être rigolo.
Ouais. Le sport.
Oui.
Vous m'avez parlé de sport. Le peu de temps qu'on s'est préparé, oui, j'ai enregistré que le sport était quand même un de vos dada, si je peux me permettre.
Oui, totalement. C'est une grande passion chez moi depuis. Alors, c'est pas forcément en faire, j'en fais encore un petit peu. Mais c'est surtout, effectivement, sur l'histoire du sport. Peu importe les sports, le foot plus particulièrement. Un peu classique, malheureusement, mais sur le foot plus particulièrement, c'est vrai que. J'ai un grand frère qui a toujours aimé faire du foot. Depuis que je suis née, je vais le voir au foot. Ma mère a fait du hand, j'ai fait du hand pendant des années aussi. Et c'est des choses qui m'intéressent beaucoup. Je suis très friande de ce genre de discipline, même un peu les disciplines aussi un petit peu cachées. Il y a le water polo à Nancy qui marche très bien, par exemple,
ah oui.
On peut en parler. Hein. Mais c'est vrai que du coup, j'ai une émission de sport. C'est comme ça que je m'étais vendue aussi auprès de Thomas pendant l'entretien. Et il m'a fait confiance, il m'a mis au micro le premier jour où j'étais là justement sur un sujet que je n'avais même pas du tout préparé. Et ça m'avait un peu mis sur le feu directement, c'était un peu compliqué. Mais ça m'a permis de faire mes preuves et qu'il me signe du coup tout de suite après cet essai-là, de me dire tu t'y connais bien finalement en sport aussi. Vas-y, c'est bon. J'avais un petit peu de doute, mais on y va du coup.
L'histoire du sport, ça peut remonter jusqu'à Cassius Clay, ça peut remonter...
Ça peut remonter jusqu'à Cassius Clay. C'est des périodes que je connais forcément un petit peu moins. Mais, et puis des sports que je connais aussi un petit peu moins aussi hein, sur ce sujet-là. Après, effectivement, sur le foot, je peux remonter jusque les années 60 assez facilement sur des petites anecdotes assez drôles dont je n'étais même pas né puisque je suis né en 2000. Forcément, le sport plus moderne, c'est un peu plus familier pour moi, mais, sur l'histoire du sport en globalité, j'aime beaucoup aussi.
Il y en a un qui me vient à la tête comme ça, c'est le baron Pierre de Coubertin, qui a donc réinventé, remis en place les Jeux Olympiques modernes.
Bien sûr.
Et on va avoir les Jeux Olympiques à Paris.
Pour la deuxième fois depuis ça, effectivement.
Ouais, voilà.
On les a eu en 1904 et là, on les a en 2024. Si
ouais.
Non, 1924, pardon. Je dis une bêtise. La première était à Athènes, la deuxième à Paris aussi.
D'accord.
Donc oui, c'est cool. Et puis j'espère pouvoir y aller, malgré les prix assez élevés, hein, qu'on se le dise. Mais je pense que tout Français, enfin presque tout Français, même pas forcément fan de sport, a envie de voir ces JO en vrai, quoi, parce que ça arrivera qu'une fois dans notre vie, certainement, c'est même presque sûr.
Oui. Dans la conjoncture actuelle, il est certain que ce ne sera pas facile de faire un petit bas de laine pour se payer des demi-finales ou des finales qui dépassent quelquefois les 1000 euros.
Hein. Ah oui, bien sûr. Non, mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de places promises à 25 euros, qui était déjà le premier prix le plus élevé par rapport aux deux ou trois derniers JO d'été. Et effectivement, ils promettaient ça, ce genre de prix assez grandement. Finalement, il y a 500 000 places à 24 euros ou 25, je ne sais plus d'ailleurs, qui ont été mises en place, et 25 pour des collectivités, etc. Bon, c'est pas si facile que ça d'avoir des places pas très chères. Ça monte vite dans les 60-100 euros et après, une place.
Et après, il y a le marché noir.
Après, il y a le marché noir, et puis même...
Avec tous les risques de fraude aussi, de vendeurs, de faux vendeurs, de faux billets, quoi. Enfin, de
totalement.
Vrais vendeurs de faux billets, pardon.
Et même outre ça, c'est très compliqué aussi de pouvoir... si on va avoir, par exemple, deux matchs un jour après l'autre, il faut trouver aussi un hébergement, ce qui va être assez compliqué et très très cher. Hein. À Paris, déjà, on connaît le prix d'un Airbnb, d'un hôtel, parfois. Là, ça va être encore plus compliqué pendant cette période-là. Et puis les transports, qui vont devoir être assurés.
En espérant que les cours de l'essence à la pompe ne remontent pas encore plus que ce qui monte à l'heure actuelle.
Oui, mais oui, et puis même les transports en commun, hein, globalement, hein,
ouais.
que ça soit un petit peu tout.
Je crois qu'on va faire une petite pause et on va écouter la pianiste franco-iranienne Laila Ramezan, qui s'est produite dans un spectacle le 6 avril à la salle Rographe.
Thank you. می گفت و هر لحظه سیلاب درد فرو می دویدش ز رخسار زرد که ای مدعی عشق کار تو نیست که نه صبر داری نه یارای ایست.
Merci Laïla. Je ne me lasserai jamais de vous écouter. Je vous ai entendu deux fois, une fois à Pont-Saint-Vincent le 24 octobre 2022. Je vous ai entendu le jeudi 6 à Nancy. Et chaque fois, votre musique me prend tout mon corps. Mes oreilles et mon corps.
Bon, c'est magnifique, c'est vrai.
C'est magnifique ce qu'elle fait. Alors justement, on va parler un petit peu associatif. Les missions de service civique sont régies par des règles bien précises.
Oui.
Ils sont ouverts à de jeunes adultes de 15 à 25 ans, mmh. ou bien 35 ans en cas de situation de handicap.
Oui.
Et donc, c'est en majorité des associations de tout type. Il y a des associations qui sont dans la culture, il y en a qui sont dans le sport. Et c'est vraiment un marchepied, moi, je trouve, formidable pour ces jeunes d'intégrer un organisme, une association qui a une vie, hein, qui accepte de prendre ses services civiques pour les mettre dans le marchepied, je dirais moi. C'est un marchepied au travail aussi.
Oui, c'est quelque chose qui permet de se professionnaliser aussi, tout en gagnant un petit peu sa vie. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'heures sur certains services civiques. Ça va entre 24 et 40, je crois.
Ah oui, à ce moment-là ?
Ah, il me semble, vu que ça peut aller, ou 39 peut-être pas 40. Mais du coup, ça peut varier assez rapidement. C'est vrai que sur beaucoup d'aspects, même pour aussi connaître des fois des structures, d'autres associations, c'est très intéressant. C'est possible qu'une seule fois dans sa vie, donc c'est aussi un autre aspect à savoir. Donc il faut, entre guillemets, bien choisir si on en fait. Après, des fois, on n'a pas toujours le choix, c'est aussi pour nous aider... financièrement et nous professionnaliser, pardon. Oui, c'est très important et je trouve que, en tout cas, moi, je suis très contente de mon expérience.
Un des points forts, je pense, des services civiques, enfin de la mission de service civique, c'est que ça permet justement un échange intergénérationnel très important.
Totalement.
Je vois que au Petit Pigeon Voyageur, on a reçu une jeune service civique qui a 20 ans, alors que son tuteur pourrait être son grand-père.
Oui, bien
sûr. Sans problème. Eh bien, c'est un grand plaisir, autant pour le tuteur que pour le service civique, que de pouvoir partager des valeurs de plusieurs générations, mais qui vont tous dans le même sens, parce qu'une association, elle a des valeurs.
Bien sûr.
La nôtre, elle est quand même dédiée, le Petit Pigeon Voyageur, le soutien moral et psychologique au peuple en détresse. C'est quelque chose d'assez rare, d'ailleurs, comme objet social. Dans l'humanitaire, on voit les transports de médicaments, de vêtements, etc. Et nous, on a pensé que, devant la façon dont se commençait cette tentative d'invasion, il allait falloir accepter des personnes qui viennent, des immigrants, parce qu'ils sont chassés, parce que leur ville, etc. Et c'est d'une richesse que de s'intéresser au côté moral et psychologique.
Bien sûr. Bah c'est vrai que c'est d'autant plus intéressant d'être dans une association où on partage les valeurs. Ça peut aussi arriver qu'il y ait des fautes de chemin ou des entreprises ou des associations prennent des services civiques qui ne sont pas dans les valeurs, mais surtout dans des associations comme ça, c'est d'autant plus important. Si quelqu'un n'est pas investi dans ces causes-là, ça n'a pas d'intérêt, il n'y a pas d'échange entre les personnes.
Absolument. Alors, votre avenir professionnel, il va aller vers où? Il est devant, vous allez me dire.
Il est totalement devant. Je vais bientôt avoir 23 ans, donc je veux travailler. Je veux aller de l'avant, je veux travailler. Donc, les études, je vais avoir ma deuxième année de licence, histoire de n'avoir plus qu'une année à refaire si je me relance dans un, deux, trois ans.
Domaine, la licence?
Dans les langues étrangères appliquées. Donc, tout ce qui est langue, économie, droit, etc. Mélangés ensemble. Qui font pas mal d'heures, au final.
Quelles langues sont à votre programme?
Anglais, espagnol et allemand.
C'est souvent les plus parlés sur...
C'est souvent les plus parlés, effectivement. Il y a l'italien aussi, où j'ai fait un petit peu d'italien aussi, mais oui. C'est les trois langues principales que j'ai souvent eues dans mon parcours au collège ou au lycée. Mais c'est vrai que voilà, c'est pas forcément une licence qui me plaît, c'est pas forcément là où j'ai envie d'aller, du coup. Forcément, je veux arriver à travailler dans ce domaine-là, dans le domaine où je suis actuellement. Donc ça m'a servi aussi de vérification à ce que je veuille vraiment faire, parce que c'était une question. Je pensais vouloir faire ça depuis quelques années déjà. Je suis dedans et je sais que je veux faire ça maintenant. Ça me plaît, ça me donne envie de travailler. Des fois, je ne vois même pas forcément le travail que je fais. Je travaille même en dehors de mes horaires, à côté, chez moi, etc. C'est quelque chose qui me plaît, donc j'ai envie de continuer là-dedans et de trouver un emploi pour l'avenir, donc de pousser des portes, de chercher.
Des voyages à l'étranger aussi, quand on fait des langues.
C'est vrai, c'était dans le processus à la base. Je voulais aller en Erasmus. Là, ça me semble compliqué vu que je ne veux pas faire de troisième année, comme c'est en troisième année qu'on peut faire ça. Là, ça va être des voyages à l'étranger. Moi, j'adore voyager, évidemment. Après, ça implique un coût. On peut aussi le faire en travaillant à l'étranger pendant quelques mois. J'y ai pensé.
Au pair, pas
forcément aussi. Oui, oui, par exemple, ça peut être intéressant. Mais même travailler aussi en tant que Français dans différentes structures. Hein. Ça peut être dans une entreprise, dans un restaurant, etc. Mais avoir sa petite vie à côté et travailler un mois, deux mois, six mois, plus dans ce genre de pays, en Angleterre, en Espagne, autre. Mais c'est vrai que ça m'effleure l'esprit. J'y penserai si j'ai besoin d'une pause à un moment. Pour l'instant, c'est pas d'actualité.
Une bonne immersion dans un pays étranger dont on parle la langue, dont on a appris à parler la langue, mais tant qu'on n'est pas sur le terrain, c'est quand même une excellente chose que d'avoir une bonne immersion dans un pays.
Ah, c'est très, très intéressant. Et puis, pour moi, je pars du principe de parler au moins l'anglais presque couramment. C'est vraiment essentiel. J'en suis pas encore là, moi en plus encore du coup. Mais de le parler quand même assez couramment, de le comprendre couramment, c'est une des choses les plus importantes. Ça peut nous ouvrir des voies. Bon, l'anglais, c'est quand même assez facile. Hein. Ça commence à être quand même parlé assez fréquemment, un peu partout. L'espagnol aussi, l'allemand un petit peu moins. Je suis pas très bonne en allemand, donc c'est un peu plus compliqué. Mais c'est vrai que avoir une ou deux langues en plus sur notre CV, ça apporte des choses qui peuvent nous différencier d'autres personnes.
Bien sûr. Et le marché, je pense, est quand même ouvert au niveau des personnes qui ont licence ou maîtrise en langue.
Bien sûr.
Surtout en langue appliquée, pas les langues mortes. Les langues mortes, c'est encore autre chose.
Ah oui, bien sûr.
Vous voyez, par exemple, Leïli Anvar, qui est venue réciter le spectacle 1001 chants de liberté, le 6 avril. C'est une normalienne, c'est une chercheuse, c'est une écrivaine mmh. et une spécialiste, maîtresse de conférences en poésie persane.
D'accord, oui. Donc, très très précis, oui.
C'est un beau bagage et vraiment, ça fait un spectacle avec Leïli qui se marie très très bien.
Bien sûr.
Qu'est-ce qu'il nous reste à découvrir l'un de l'autre ?
Je ne sais pas, de quoi on pourrait parler de...
Bah tiens, moi je vous propose de parler un petit peu du Petit Pigeon Voyageur.
Allons-y.
C'est une association qui s'est créée le 28 février 2022, du fait qu'il y avait l'actualité sur l'Ukraine depuis 4 jours. Mmh. Et on est parti à fond sur cette association et son objet social de soutien moral et psychologique au peuple en détresse. Mmh. Ce sont des envois. Alors, c'est également, on a besoin des langues. Alors, nous, on utilise, pour envoyer nos messages en Ukraine, on utilise beaucoup l'anglais, l'ukrainien et le russe aussi.
Bien sûr, oui.
Hein, et on utilise Google Traduction. Bon, ça vaut ce que ça vaut.
C'est, oui.
Mais on arrive quand même, paraît-il, à nous comprendre. Et on envoie des poèmes. On envoie des poèmes, des mots positifs. Les enfants aussi nous ont envoyé des dessins avec des commentaires absolument merveilleux. Je salue l'école de Villers-Moivron qui nous a envoyé 25 dessins avant les vacances, avant les grandes vacances. Mmh. Et puis on a bifurqué un petit peu, tout en s'occupant bien sûr de l'Ukraine, après le spectacle qu'on a fait le 23 novembre au conseil départemental, avec une saxophoniste, Olga Petukova, et puis le professeur Tarquinio, qui nous a fait un récit sur l'EMDR. L'EMDR, c'est un professeur en psychologie. Et l'EMDR est un moyen de traiter les mots, les dépressions ou autres, par les mouvements des yeux.
D'accord.
Et c'est un système qui fonctionne très très bien. Et puis, il s'est passé un concert au mois d'octobre 2022, où il y avait justement, c'est là que j'ai fait connaissance avec Laila.
D'accord.
Et qu'on a commencé à avoir l'idée de faire quelque chose pour l'Iran, sachant le drame qui s'était produit au mois de septembre avec cette jeune femme qui... arrêtée et morte dans les 3 jours. D'où le spectacle qui a eu lieu le 6 avril.
Très bien.
Alors, la service civique, le service civique, mm-hmm. Elena en l'occurrence, que je salue, elle travaille à côté de nous, elle s'imprègne des différentes personnalités de l'association.
Bien sûr.
C'est important. Et là, il y a un très gros travail, on a cette chance, parce que le bureau est quand même, c'est pas un bureau du premier âge.
D'accord.
Même si on vient de souffler la première bougie du Petit Pigeon. Mais c'est vrai que pour une jeune femme de 20 ans, travailler avec des sexagénaires, voire 70 ans, c'est quand même pas tout à fait la même génération.
Bien sûr, mais c'est toujours intéressant.
Qu'est-ce qu'on apprend d'un jeune qui est à vos côtés ?
L'un et l'autre.
Les deux.
De toute façon.
Ouais.
L'expérience. Les personnes plus âgées ont tout à apprendre aux plus jeunes, à partager leurs histoires, leurs expériences. Les jeunes ont tout à apprendre aussi sur ce qui se passe en ce moment. On a tellement d'actualités qui nous passent sous les mains. On a aussi un point de vue aussi différent. Et on peut aussi s'imprégner l'un de l'autre et apprendre l'un de l'autre. C'est pas parce qu'on est plus jeune qu'on est moins intelligent, moins pris par les choses et qu'on peut moins apprendre à d'autres personnes. Et inversement.
Oui, écoutez, Anaïs.
Pas de soucis.
J'ai été super content de vous avoir en invité.
Également, c'était un plaisir.
Et je l'espère, moi ça l'a été. Je vais juste rappeler que Petit Pigeon Voyageur a un site internet que vous pouvez trouver facilement. Vous pourrez aussi aller sur Facebook où il y a une page Petit Pigeon Voyageur. Et puis on a aussi un concours de graines de tournesol, les graines de la paix. Donc vous pouvez commander des graines qu'on vous envoie par la poste ou alors, oui... Et puis vous plantez ces graines et puis vous faites le concours de la plus belle photo de tournesol.
Génial.
Qui est la fleur de la paix.
Oui, oui. Et puis qui est une très belle fleur en plus. La fleur magnifique. Du soleil
et c'est celle
de l'été.
Et c'est celle qui nourrit les oiseaux, dont les petits pigeons voyageurs.
Exactement.
Merci encore Anaïs.
Merci à vous. Merci beaucoup.